Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien, Stéphanie. Super. Comme je l'ai dit, je suis Seth Aytan, je serai votre organisateur aujourd'hui. Et alors, commençons. Donc, pour tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, j'aimerais vous donner la bienvenue à l'initiative LC, le brief technique pour le troisième programme à la fin de laquelle nous sommes. Le 30 mars, j'ai l'honneur d'introduire les discussions. Je pense que nous pouvons parler que nous passons la parole à le ministre de l'État du Moyen-Orient, l'Asie, les Nations Unies et le Premier ministre spécial représentant sur la prévention des violences sexuelles du Royaume-Uni. Nous avons également eu des intervenants fantastiques, Consul Varana, coordinateur politique pour l'initiative pour l'Uruguay. Nous avons eu des Captain Haram sur les polices de genre. Nous avons eu également des consultants militaires. Nous avons entendu le commissionnaire de la police de la mission des Nations Unies pour le Soudan Sud-Sud et Dr. Corinne, le professeur assistant de l'Université Cornell. Et ils ont donné des éléments très intéressants. J'aimerais passer en revue les notes que j'ai. Il y a eu beaucoup de discussions pour la participation pleine et l'égalité de genre. Et nous avons également entendu quelqu'un qui a parlé de la gestion des femmes, les questions, les infrastructures sensibles pour les femmes, ainsi que pour les pays afin de nommer des femmes pour les opération de maintien de la paix. J'ai entendu des discussions souvent, on aimerait plus de femmes, on aimerait plus de femmes, mais dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, je pense que nous devons changer le paradigme. Nous avons arrêté de dire nous aimerions, mais nous avons besoin de plus de femmes. Et c'est la réponse pour les opérations de maintien de la paix, d'opérations de paix. Cela pourrait aider la crédibilité des missions. Cela pourrait également faire en sorte d'augmenter le succès de ce que nous avons obtenir dans ces missions. Pour aider à la visuelle, ce que les Nations Unies pourront amener dans les nations, dans les pays, dans les communautés en question. Donc, je pense que nous devons regarder à ces points-là. Et puis, autre chose, j'aimerais aussi souligner que personne n'est tout seul là-dedans. Nous sommes ici tous ensemble. Cette initiative s'appelle ELSI. Ça aide les pays, qui souhaitent augmenter le nombre de femmes, mais également pour augmenter la capacité dans les opérations de maintien de la paix. Alors, sans attendre ultérieurement, aujourd'hui, c'est un brief technique, encore une fois. Plus que de discussion. Aujourd'hui, encore une fois, c'est un brief technique sur les opérations, sur le fond, sur les critères d'admission, les types de financement qui sont disponibles et sur qui peut faire la demande. Il y aura également le secrétaire qui fera des ateliers dans les prochaines 3 semaines pour discuter dans le détail toutes les façons de financement et les perspectives pour les étapes par étape pour le processus de demande. Donc, encore une fois, personne n'est seul. Donc, il y a la traduction, si quelqu'un a besoin de traduction en français, espagnol ou arabe, vous pouvez cliquer sur le bouton bas de votre écran. Et c'est comme un petit logo du monde, de la planète. Vous cliquez et vous avez le choix de votre langue. Vous avez normalement également la possibilité de choisir la langue à travers votre ordinateur, à travers le son. Donc, si vous avez des difficultés, il y a Vicky qui suit le chat. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à écrire cela dans le chat. Également, les orateurs, n'oubliez pas que nous avons la traduction, donc vous venez parler lentement, s'il vous plaît, afin de permettre au traducteur d'entendre correctement et pouvoir traduire correctement. Donc, n'oubliez pas cela, s'il vous plaît. Le brief technique sera également enregistré dans les langues et également, éventuellement, cela téléchargé sur le site. Il y aura les slides également qui seront téléchargés. Je pense qu'elles seront en anglais, en français. C'est une bonne nouvelle. Pour des questions et des réponses, il y aura question-réponse à la fin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les insérer dans le chat et nous pourrons les voir à la fin pour pouvoir les poser et répondre. Maintenant, j'aimerais inviter Monsieur Overchallon, le directeur général de la stabilisation des opérations de paix, le gouvernement du Canada, afin du message initial. Merci beaucoup, Stéphanie. J'espère que tout le monde peut m'entendre correctement. Bonjour, Excellence. Collègues dans le monde entier, merci d'être avec nous pour ce brief technique pour le troisième rendez-vous pour cette initiative pour les femmes dans les opérations de maintien de la paix. En tant que financeur de ce fonds, le Canada soutient le travail pour augmenter le nombre de femmes dans les opérations de maintien de la paix. Le Canada soutient cette initiative. C'est un projet multilatéral dans les décennies. Jusqu'en 2025. On ne parle pas que de chiffres, il faut reconnaître que la participation des femmes est également suggérée parce qu'elles permettent de servir aussi dans des postes de management et également que dans des environnements de travail, en trouvant des conditions de travail correctes dans toute la diversité. L'engagement du Canada en tant que champion pour les femmes de l'opération maintien de la paix et fière de soutenir cette initiative ainsi que l'initiative contre le harcèlement sexuel pour construire des infrastructures sensibles et soutenir les actions et l'uniformité dans les stratégies d'égalité de genre. Nous espérons que les organisations préparatoires pourront continuer comme c'était déjà fait jusque-là, en donnant les échanges de succès sur ces sujets, ainsi que notre coopération. L'initiative de LC est proposée. C'est une des plusieurs initiatives qui font partie de ce parcours afin d'augmenter les efforts de participation des femmes dans les opérations maintien de la paix. J'aimerais remercier les donateurs à ce fonds, l'Australie, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Corée. Et j'aimerais également remercier les pays qui soutiennent cette initiative pour augmenter la participation des femmes dans les opérations. Bangladesh, Cambodge, Côte d'Ivoire, Ghana, Jordanie, Libérie, Mexique, Niger, Sénégal, Sierra Leone, Togo, Uganda, Uruguay, Zambie, pour en nommer certains. Le succès de votre engagement est faire en sorte que les institutions domestiques et locales et nous pourrons faire en sorte d'améliorer les opérations maintien de la paix ensemble. Ce n'est pas facile, mais nous contribuerons afin d'avoir une représentation plus importante des femmes. J'espère que les discussions d'aujourd'hui seront fructueuses. N'hésitez pas de revenir vers nous si vous avez des questions. Le secrétaire est une grande ressource et ils ont hâte de répondre à toutes vos questions. Et encore une fois, merci d'être là. Merci pour tous les participants pour la séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Shannon, pour ces discours d'introduction. Maintenant, j'aimerais passer à Deb Warren-Smith. C'est le manager du fonds et elle présentera le brief technique pour aujourd'hui. Deb, à vous la parole. Merci beaucoup, Stéphanie, pour votre introduction, ainsi que merci beaucoup, Monsieur Ulrich, pour votre message d'ouverture avant le 31 juillet, il faut envoyer les lettres d'intérêt pour ceux qui sont intéressés. Vos excellences, collègues, agents de maintien de la paix, bienvenue, bonjour, bon après-midi ou bonsoir. Merci d'avoir participé et de participer à ce brief technique. Mais tout d'abord, permettez-moi de faire en sorte de dire que ce moment possible, grâce au support généreux de nos donateurs, nous aimerions remercier chacun de nos donateurs. Pour suivre, nous avons des éléments importants que j'aimerais vous montrer. Donc, pendant la création du fonds en 2019, un but de 40 millions de dollars avait été posé. Aujourd'hui, le fonds a collecté 32 millions de dollars. Nous avons approuvé 20 projets pour un total de 18 millions de dollars. Et nous avons anticipé en avance un montant de 8 à 10 millions de dollars qui seront disponibles pour le troisième round de programmation. Le fonds a été établi sur l'idée que la capacité de financement ne devrait pas limiter ou être un empêchement, une limite pour avancer dans la qualité de genre. Donc, nous, en tant que fonds, nous avons l'objectif de soutenir et encourager à travers le financement ou d'autres moyens la contribution de pays ainsi que des organisations des Nations Unies afin d'augmenter la participation de qualité des femmes dans les opérations de maintien de la paix. Le fonds a été conçu grâce au soutien d'États comme le Canada et les experts du maintien de la paix du système des Nations Unies ainsi que le département des opérations de maintien de la paix. Le fonds est aligné avec le secrétaire général et les objectifs pour de 2018-2028 de parité de genre pour les capacités de et le but de progrès accéléré afin d'atteindre ces objectifs. Et Stéphanie nous aura rappelé que nous ne pouvons pas faire cela tout seul. Nous sommes tous dans ce processus ensemble. Depuis la création du fonds, Résolution a reconnu un rôle indispensable que les femmes jouent dans la performance et l'efficacité des opérations de maintien de la paix. Et c'est la résolution 2538. Cette résolution demande également au secrétaire général des Nations Unies et aux organisations régionales de renforcer les efforts pour permettre l'adoption et participation efficace et intégrale des femmes dans les opérations de maintien de la paix à tous les niveaux et à toutes les positions, incluant les positions de management. La prochaine slide montre ces buts, c'est les points pontillés pour chaque catégorie. Encore une fois, les chiffres actuels. Vous pouvez voir la trajectoire de la participation des femmes est positive dans trois catégories, dans les policiers individuels, dans les forces et dans les militaires experts en mission. Toutefois, dans la catégorie des troupes, continue d'être derrière les objectifs que nous sommes fixés. Avec ce retard qui est là depuis 2019. Et donc, ce tableau montre comment ces catégories également souhaitent aller, non seulement atteindre les buts d'objectifs de parité de genre, mais faire en sorte d'avoir la parité de genre. Donc, les objectifs pour les troupes sont encore un peu loin pour nous et a besoin de beaucoup d'efforts afin de l'atteindre et dans le système des Nations Unies afin de pouvoir combler ce retard. Voici le pourquoi et nous pouvons passer au fond était créé pour mesurer l'impact du fonds. Nous devons être en mesure de le mesurer dans le court et dans le long terme, comme c'était montré et indiqué sur cette slide. Chaque projet proposé, chaque activité doit au moins avoir un, voire plus, des quatre résultats que nous pouvons voir à l'écran. En ayant un ou plusieurs de ces résultats, chaque projet pourra contribuer à l'impact final pour lequel le fonds a été créé et conçu. Ceci dit, nous pouvons le faire seulement en collaboration avec, forte collaboration avec les États membres, les troupes, les pays, les donateurs et les parties intéressées. La prochaine diapo montre les pays et les deux des Nations Unies qui ont soutenu le fonds depuis. Et je crois que c'est vraiment un résultat important collectivement avec le fonds ainsi que
Avec l'organisation, je peux vous dire qu'il y a 20 projets dans 21 institutions de sécurité, avec 4 projets qui ont déjà été conclus, leurs projets. Cet engagement fort voit concentrer ces activités afin d'identifier et remouvoir, éliminer les barrières qui permettent d'accéder aux femmes d'accéder et faire en sorte que cela soit fait de façon durable. Suivant la présentation de l'information sur la, chaque organisation peut faire la demande pour le fonds et les types de financement qui sont disponibles. Mes collègues pourront détailler les résultats que pour les résultats que le fonds a obtenus jusqu'à aujourd'hui. Qui peut faire la demande pour accéder à ce fonds? On peut faire des financements pour un non-gouvernement national et à travers pour la police ou la gendarmerie ou les militaires. Ou alors pour une organisation des Nations Unies. Dans chacun de ces cas, il faut signer un mémorandum ou un accord ou... Et cet accord doit être signé de façon anticipée avant le financement par notre agent d'administration et notre haut bureau. Les organisations peuvent également faire la demande en partenariat avec un pays ou une force de police d'un pays ou également une mission des Nations Unies peut faire la demande. Pour finir, les organisations de société civile ne peuvent pas faire la demande directement au fond. Elles peuvent bien sûr être un partenaire d'adoption avec le gouvernement national ou avec une organisation des Nations Unies qui participe. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, le Sénégal, la gendarmerie a fait un partenariat avec les Femmes Africa Solidarité et le Kofi Annan Institute pour la transformation des conflits en Libéry. Et l'institution indépendante de recherche pour les forces armées du Libéria, qui a été conclue à l'intérieur de UN Women en Libéry. Et effectivement, le fonds encourage, soutient les partenariats avec l'organisation de société civile afin d'amener la participation de femmes sur la table. Avant de continuer, pour les types de financement pour les différents organismes, nous devons vraiment faire en sorte d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire une participation de qualité. Tout d'abord, nous devons être clairs, faire en sorte qu'on ne parle pas que de chiffres. Participation de qualité, cela veut dire ma présence et de la leadership des femmes à l'intérieur des opérations de maintien de la paix. Des femmes, donc à tous les niveaux, également au niveau de leadership, l'inclusion de femmes et leur façon de penser différente dans tous les niveaux, également dans l'analyse des missions, le planning, l'adoption et le reporting, ainsi que tous les niveaux sont vitaux afin d'avoir l'efficacité, le succès de notre appareil. Parlons de type de financement, à quoi on peut faire la demande. Le fonds fournit un support financier de type de financement ou de mode de financement. Le premier, c'est le Project Funding Flexible, FPF. Là, il y a un financement disponible pour plusieurs entités. Et j'aimerais souligner qu'afin de pouvoir accéder à ce Project Funding Flexible, les pays ou les forces de police du pays ont besoin de montrer des résultats d'une évaluation afin de soutenir leurs demandes. Le deuxième type de financement, c'est le GSU Premium. Donc, c'est-à-dire il y a un bonus qui est payé à un pays ou une force de police du pays pour la conclusion de leur déploiement d'unité. Et au secrétariat, donc de l'LC, après des vérifications que cette unité a effectivement respecté ses critères. quelques informations sur le financement et les projets. Concernant le focus sur les projets flexibles, besoin d'être concentré sur l'identification des barrières au déploiement de femmes dans les opérations de paix. Nous avons des termes de référence et cela montre plusieurs projets incluant l'évaluation des barrières ou des obstacles qui peuvent être utilisés pour mesurer les opportunités pour les femmes dans les opérations de paix, dans la méthodologie ou dans la méthodologie. D'autres activités peuvent inclure, par exemple, le passage en revue de ressources internes et de leur politique avec l'objectif d'éliminer tous les obstacles aux carrières des femmes avec une attention toute particulière sur la sélection et les opportunités pour le développement des activités des femmes. En tant qu'organisation de Nations Unies, lorsqu'elle fait la demande pour la demande doit être avoir comme but celle d'adopter et augmenter la participation de qualité des femmes en uniforme dans leur mission, dans une opération de paix de Nations Unies. Quelle est l'évaluation des obstacles, des barrières? C'est l'identification, d'identifier donc l'obstacle aux femmes dans le contexte d'une organisation de sécurité et également le contexte particulier. Donc, l'entité peut faire une demande pour ce fonds flexible pour faire une évaluation des barrières ou des obstacles, pour faire une méthodologie ou pour la méthodologie nationale. J'aimerais maintenant prendre l'opportunité pour demander la parole à ma collègue Rinan Siab afin de présenter un aperçu des méthodologies. Ensuite, je vous donnerai des informations sur les financements, les autres modalités, le GSU Premium. Et ensuite, je demanderai ma collègue Agathe de présenter quelques éléments clés de cette fond et les résultats. Maintenant, à vous, Ria et Diab. Merci. Merci beaucoup, Deb. Bonjour tout le monde. De Genève ensoleillée, je suis Rina, je suis un Project Officer à TICAF, Gender et Division Genre et Sécurité. Je suis également, j'ai été agent de maintien de la paix en Liban en 2019. Donc, c'est un honneur pour moi de vous présenter aujourd'hui ce sujet très important. Qu'est-ce que DECAF? DECAF, c'est le secteur de gouvernance de Genève. Nous sommes une fondation suisse pour faire en sorte de maintenir la paix et une justice plus durable. Et la division de sécurité genre soutient l'égalité des genres avec des polices et des consuls. Avec des recherches, avec l'adoption de projets dans le monde entier. Le DECAF a travaillé ces derniers 5 ans pour soutenir Global Affairs Canada dans le cadre de l'ESI. Initiative pour les participer afin d'atteindre les objectifs avec les forces de police pour avoir une motivation et les capacités de soutenir les efforts pour la participation des femmes de qualité dans les opérations de maintien de la paix. Cela inclut également la méthodologie MOWIP avec l'Université Cornell sur laquelle nous parlons aujourd'hui. J'aimerais pas donner la parole à Zineb de la Cornell Université. Merci, Rina. Bonjour tout le monde. Je suis Zineb. Je suis une chercheuse à secteur lab de genre et sécurité à la Cornell Université et j'ai déjà travaillé en tant que chercheur université. Et je suis donc aussi très honoré d'être ici aujourd'hui pour vous donner un aperçu rapide du lab. Le secteur genre et sécurité fait partie de l'Université Cornell à New York et géré par Dr. Sabrina Corim. Et notre lab a une approche interdisciplinaire pour les études études du rôle de genre et sécurité, secteur sécurité, donc police, militaire, opération maintien de la paix, soutenue par le Global Force Canada. Le but est d'aider les pays à adopter les évaluations et utiliser les données, les informations de tous les pays qui participent afin d'effectuer des recherches pour avancer dans ce secteur. La méthodologie dans le secteur académique concerne les hommes et les femmes, et avec une attention particulière sur la participation des femmes. Là, non seulement pour les standards académiques, mais les conclusions ont montré être un processus transformatif pour augmenter au niveau de la au secteur des institutions les barrières et les obstacles pour la participation des femmes. La méthodologie qui a été dans les pays pilotes, nous aimerions donc remercier ces 7 pays qui ont fait ce travail. Rina, à vous à nouveau. Merci beaucoup, Zineb. On restera sur cette diapo pour quelques secondes, d'accord? Donc, la méthodologie MOWIP, clarifiée par Zineb pour les opportunités dans les opérations de maintien de la paix, et mesure les participations des femmes dans les opérations de maintien de la paix du point de vue des pays et des forces de police. On peut voir ces éléments clés. Accès, ressources et impact. Ensuite, il est important de voir que cette participation ne concerne pas que les chiffres, les proportions de femmes qui sont occupées. La prochaine diapo, pardon, on peut voir ce qui a été complété jusqu'à avril 2023. Nous avons complété 15 MOWIP jusqu'à aujourd'hui, et le rapport global a été publié en juin 2022. Le rapport montre des informations concernant la méthodologie, concernant les troupes et les pays, avec des recommandations pour les opérations maintien de la paix en pratique. 13 rapports ont été publiés, sont disponibles publiquement. Et de le seront prochainement. Dans ces programmes, nous avons hâte d'avoir d'autres pays et d'autres forces de police qui participeront à cette évaluation qui pourra guider les développements futurs pour la participation des femmes dans les forces. Afin de parler un peu plus de la méthodologie dans les détails, par Zineb, nous pouvons passer à la prochaine slide pour montrer les obstacles qui sont vus par les femmes. Nous avons indiqué les résultats trouvés le plus souvent dans cela. Imaginons une femme qui s'appelle Sarah. Après avoir être diplômée de l'Académie militaire à 21 ans, elle était prête à voilà, participer à des opérations de maintien de la paix, mais cela n'est pas arrivé. Elle ne connaissait aucune autre femme qui faisait cela, donc elle ne connaissait rien à propos de maintenir la paix. Et ce n'était pas quelque chose qui semblait être fait par une femme auparavant. Sur la prochaine diapo, nous pouvons voir que cela change parce que Sarah a fait participer à un événement réalisé par une association. L'histoire de la première femme qui a travaillé dans l'opération l'a inspirée, car elle a eu un rôle administratif. Elle n'avait pas les compétences pour être sur le terrain. Donc, Sarah est arrivée à se faire transférer, comment utiliser une arme à feu, avoir une formation. Mais il y a eu des problème avec d'autres collègues en tant que seule femme, elle a quand même pu montrer que ses capacités. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Dans sa vie, Sarah, à ce moment-là, s'est mariée, elle a eu 2 femmes, c'était difficile. Pendant son congé maternité, il n'y avait pas de possibilité de laisser les enfants à côté de là où elle travaillait. Sarah a on a demandé à Sarah de considérer Sarah trop dangereux de la déployer quelque part. Et Ensuite, Sarah a arrivé à changer d'avis au commandant et Sarah a été envoyée sur une mission. Et ensuite, elle a une déception parce qu'elle n'était pas autorisée à patrouiller. Au contraire, elle devait faire du travail administratif. De temps en temps, elle pouvait rencontrer des victimes de violences sexuelles, mais elle se sentait elle ne sentait pas pouvoir aider. De temps en temps, il y avait des formations pour répondre aux victimes de violences. Elle se sentait, elle avait des compétences et elle avait hâte de pouvoir montrer cela.
Nous pouvons voir qu'à l'issue de sa formation, elle a appris énormément et elle a découvert une nouvelle culture. Ça a pris un peu de temps avant que les choses reviennent à la normalité avec ses enfants et son partenaire. Ses collègues civils n'avaient pas compris celle qu'elle avait éprouvée. Elle a senti que les nouvelles capacités qu'elle avait apprises amélioraient son travail, mais qu'elle n'avait pas, c'était utile pour faire avancer sa carrière. Un jour, un membre du personnel l'a demandé si elle le recommandait d'aller participer dans les missions de maintien de la paix. Elle a dit oui, et ces missions portent fortement dans votre santé mentale et familiale. Il faut s'attendre à plusieurs temps difficiles lorsqu'on gère avec cet exercice et il faut pas attendre une reconnaissance pour votre sacrifice à votre retour dans votre communauté. J'espère que cette histoire montre le besoin d'avoir une solution aux barrières sociétales, mais également résoudre aux barrières pour le personnel féminin déployé sur place. Nous voyons une recherche qui pourrait fournir une base robuste pour les interventions ciblées, mais également qui souligne les bonnes pratiques pour nous en tant que communauté internationale pour les générations à l'avenir. Pour plus d'informations sur cette méthodologie, je vais donner la parole à ma collègue. Merci pour fournir ces cadres. Alors, je vais donner une petite aperçu sur la méthodologie MOWIP en anglais. Alors, en moyenne, ça prend 12 mois à mettre en œuvre, mais ça peut être plus rapidement si la première phase a été faite en toute sécurité avec les institutions. Alors, la première étape constitue à la création d'une mise en œuvre de la méthodologie MOWIP, à savoir paperasse, planification, budget, en la débrouillant sur ces documents en ligne. On a appris en ce qui concerne la mise en œuvre de la MOWIP, cette première étape est très importante. La planification doit se faire assez précocement et l'efficacité de cette évaluation MOWIP porte sur la bonne sélection du partenaire. Nous allons vous fournir des informations supplémentaires en ce qui concerne le module d'apprentissage disponible, mais l'important à garder en tête, c'est que vous pouvez vous mettre en relation avec les académiques comme moi-même, avec Rina, Etika, mes collègues qui ont un nombre d'expériences en ce qui concerne la mise en œuvre et l'évaluation de l'évaluation MOWIP. Dans cette étape de préparation, vous pouvez vous mettre en relation avec ces parties prenantes. Deuxième étape, c'est la collecte de données et ces outils de collecte de données sont une application de la méthodologie MOWIP qui ont été conçus pour capturer de façon empirique les barrières à la participation des femmes dans les processus de maintien de la paix. Et les d'une façon solide. Alors, il y a un formulaire avec des questions qui fournissent des données spécifiques sur le personnel, sur le déploiement du personnel, les politiques y afférentes appliquées par les différentes parties prenantes. Mais également, il y a des entretiens avec les décideurs clés, experts en matière des genres et maintien de la paix dans l'institution et au sein d'autres organisations gouvernementales pertinentes. Et bon, c'est la partie la plus intense de la méthodologie MOWIP, c'est-à-dire mener un sondage avec le personnel, hommes et femmes, et au service dans l'institution. Et suite à ces activités de collecte de données, on va passer à la troisième étape qui s'appelle la phase d'analyse des données et création des rapports, où il y aura une équipe qui va être chargée de la création d'un rapport en partenariat avec les laboratoires. Et dans la quatrième étape, très importante, elle s'appelle le processus de validation, où nous rassemblons toutes les activités de collecte des données qui sont présentées aux institutions, qui vont regarder et analyser les découvertes. Ils vont créer les bonnes pratiques pour créer des recommandations en partenariat avec les institutions de sécurité. Ils vont fournir une révision sur le rapport final et ce sera une opportunité de partager, de discuter les informations qui ne pourront pas être discutées avant de passer à la cinquième phase, qui est la phase de lancement du rapport. Alors, la DCAF et les GSS Labs ont été conçus pour venir appuyer la méthodologie MOWIP. Alors, il y a les helpdesk, la ligne d'assistance MOWIP qui peut être utilisée par toutes les personnes y impliquées, le personnel impliqué dans l'évaluation MOWIP, toutes les organisations qui appuient la mise en œuvre de l'évaluation, que ce soit une institution de recherche dans les nations, les organisations, par exemple, UNFAM et d'autres qui sont impliquées dans l'évaluation MOWIP. Elle ne cesse d'avoir des outils, des ressources, des directives et vraiment tous les documents qui seront disponibles pour la bonne mise en œuvre de la méthodologie, mais également, par exemple, les applications, les candidatures pour avoir des subventions. On peut vous fournir des appuis à travers le processus de candidature, mais on ne prend pas la responsabilité sur les partenaires ou pour la rédaction des rapports. De notre côté, dans les GSS Labs, nous avons travaillé avec cette méthodologie qui est très robuste et cela demande une certaine connaissance de la méthodologie, une certaine expérience en ce qui concerne la rédaction des données. Nous avons également des capacités qui sont complémentaires avec une compréhension théorique ce qui concerne le genre et les dynamiques dans ces secteurs. On peut venir appuyer ces dimensions dans toutes les étapes, à savoir les entretiens, les sondages. On peut venir appuyer l'analyse, la rédaction des rapports d'habitude. On fournit des renforcements des capacités et toute formation ce qui concerne la méthodologie MOWIP. Alors, en ligne, je sais qu'on a parlé pas mal de choses, mais toutes ces informations sont disponibles en ligne, accessibles pour vous. Vous pouvez trouver la méthodologie disponible en ligne. Il est très important de lire toutes les informations, et particulièrement regarder les parties techniques de la méthodologie. Il faut prendre en compte toutes les analyses des collectes de données, les capacités nécessaires pour bien mener à bien cette méthodologie MOWIP, identifier bien cette évaluation dans votre pays. Et d'habitude, c'est une université, une institution de recherche, une organisation similaire qui bénéficient déjà des connaissances pour bien mener cette évolution, préférablement basée dans le domaine de la sécurité. Comme l'a déjà dit, il faut s'assurer que nous sommes en train de bien mener la méthodologie MOWIP. Le laboratoire nous a aidé à créer une boîte d'outils pour cette mise en œuvre MOWIP. Dans cette boîte d'outils, il y a des explications qui fournissent des directives spécifiques au-delà de toute la méthodologie. Alors, n'hésitez pas à regarder ces outils de collecte de données, même avant de candidater, car ce serait une bonne idée de comprendre davantage la méthodologie. Et nous sommes disponibles pour répondre à vos questions et pour venir vous appuyer dans le processus de candidature pour des subventions aussi, et d'autres questions que vous pourrez avoir à l'avenir. Il y a également la possibilité de travailler avec le laboratoire qui permet d'avoir un appui méthodologique pour avoir un processus d'analyse et de collecte de données réussi. Et comme ma collègue l'a déjà évoqué, nous avons créé des modules disponibles qui seront divulgués, le rapport. rapport final ne sera disponible que lorsqu'il sera validé par toutes les institutions, les informations non pertinentes ont été enlevées. Et bien évidemment, on va discuter plus par la suite avec plus de détails sur la méthodologie. On va partager un dossier d'informations disponible dans les trois langues, anglais, français et arabe. Suivante diapositive. Alors, la méthodologie peut être adaptée, mais il y a des impératifs. Le premier, ça doit être impartiel. Alors, pour trouver un partenaire, il est très important de suivre les étapes. Il est important que ce partenaire bénéficie d'un accès aux institutions, qu'il s'acquitte des requis nationaux et régionaux, qu'il soit impartial pour assurer une bonne évolution, une bonne évaluation MOWIP. Deuxième, il faut s'assurer que toutes les informations nécessaires à l'évaluation MOWIP comprennent la liste compréhensive des politiques, les faits et les chiffres sur l'institution. Une autre dimension est et vraiment saisir les expériences des hommes et des femmes par le biais des sondages pour créer des plans robustes. On essaie de faire 50-50% ou s'assurer dans le maximum que les deux genres soient bien représentés dans les sondages pour avoir une expérience égalitaire sur les deux genres. Également important est saisir le point de vue des preneurs de décision. On souhaite mener des entretiens qui pourront nous aider à comprendre comment ça s'est passé la prise de décision stratégique et comment ces priorités sont établies afin de comprendre comment ces barrières pourront être surmontées. Et voilà une norme critique pour la stratégie MOWIP. Et finalement, bon, je ne veux pas regarder de près tous les domaines parce qu'on n'a pas le temps, mais en général, sachez que cette évaluation porte 10 domaines qui regardent les domaines structurels, par exemple les provisions qui concernent le soin de santé pour les enfants, mais c'est également la question sociale. Ce sont des informations qui seront disponibles en ligne et vous allez trouver toutes les informations que j'ai déjà évoquées dans la boîte outils MOWIP. Et finalement, on a déjà évoqué les 5 étapes du MOWIP et il y a la validation des résultats. Il est très important que l'institution validante travaille en étroite coopération avec nous de nature à présenter les résultats à l'institution et fournir des recommandations suite au traitement de ces données. Voilà les requis et les normes minimes pour le MOWIP. Et bon, merci. Alors, n'hésitez pas à regarder la liste de ressources sur la méthodologie MOWIP qui sont disponibles sur le site web qui apparaît sur votre écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec nous par mail. Merci à mes collègues et on sera ravis de répondre à toutes questions concernant la méthodologie MOWIP. Merci Rina et Sia pour cette présentation très intéressante et particulièrement en ce qui concerne les normes minimes, les critères minimes. On va faire attention, on va y faire attention pour nous y acquitter. Alors, comme je l'ai déjà dit, on va parler du deuxième modalité. Mais bon, on va définir l'unité solide sur les genres est une terminologie créée par l'initiative ELSI. Alors, c'est une terminologie qui n'est utilisée qu'en interne et qui parle sur nos contextes en particulier. Alors, cette unité est solide sur les genres, ou GSU, et décrit une unité militaire ou de police qui répondent aux critères minimes dans notre référence. Alors, cette modalité n'est disponible que pour les pays, des pays en particulier, et elle a été créée pour motiver la mise en œuvre et intégration de plus de femmes dans les troupes ou unités de police, à savoir unités de police formées ou troupes militaires. Alors, cette modalité est une motivation, un bonus payé à un pays pour la mise en œuvre d'une unité avec un nombre important de femmes, et ces chiffres doivent représenter 100 points supplémentaires par rapport à la référence établie pour les stratégies. Je répète qu'on ne parle pas de chiffres, mais l'objectif, c'est d'avoir plus de femmes qui travaillent dans toutes les fonctions et rôles, à savoir rôle opératif, et le patrouillage, et mission, mais c'est également important, la sûreté des femmes doit être assurée dans cette troupe, unité de police. Cela comprend un environnement de travail libre d'harcèlement sexuel, de violences sexuelles ou d'autres comportements inadmissibles. Alors, les TPCC prennent en compte cet agenda et on vous encourage à discuter et consulter auprès de votre point de référence, votre point focal en ce qui concerne la mission de paix et sécurité. Mais c'est également, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec nous, mais bon, il est très important de vous mettre en relation avec votre point focal, le DPO. Un autre point important pour ces GSU, les bonus, bon, on cherche qu'il soit démontré que ce bonus sera réinvesti pour des activités qui vont venir appuyer les objectifs du fonds, à savoir des activités qui vont être mises en place pour renforcer l'implication des femmes dans une fenêtre de temps de 3 ans, mais également qui vont servir à être vecteur de changement pour les organisations qui vont favoriser l'inclusion importante des femmes. Alors, un peu de contexte en ce qui concerne le bonus, la prime. Alors, pour cette prime, elle sera payée à ces TPCC et à l'issue de la mise en œuvre de la mission. Et comme je l'ai déjà dit, après la vérification que l'unité a rempli les critères décrits dans notre condition. Alors, il y aura une augmentation de 25% pour la deuxième année et 50% pour la troisième année pour la mission en particulier et qui a été accordée par les TPCC. Alors, il faut que ce soit la même mission et la même unité. Et on souligne le fait que le fonds surveille que les TPCC, les contributions générales du TPCC, on va les surveiller pour nous assurer que les chiffres en matière de participation des femmes ne régressent pas. Il est égal. Alors, le suivant point porte sur le montant payé pour la mise en œuvre d'une GSU. Pour ces unités, vous pouvez le voir, les chiffres, et ces informations sont également disponibles dans notre site web, mais également il y a un calculateur où vous pouvez rentrer la taille exacte de votre unité et il y aura un calcul automatique de la prime qui va se faire. Je vais donner la parole à ma collègue qui va présenter les résultats du fonds et j'espère que ce sera une source d'inspiration pour tous les TPCC est présent aujourd'hui pour notre troisième tournée de notre programme. Merci. Et Dave, alors je vais présenter un aperçu de résultats du projet EIF. Alors, premièrement, les barrières, l'évaluation MOIP. Alors, depuis sa conception, nous avons appuyé et 14 institutions de sécurité à mener des évaluations MOIP dans 9 pays. Alors, pour nous, il est très important de traduire cette recherche dans des actions et aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons quatre mesures prises pour aborder les barrières importantes, à savoir la nomination des femmes pour des positions de pouvoir ou la rénovation des paradigmes, le contexte de campagne de recrutement qui cible le recrutement de femmes. Maintenant, en ce qui concerne les activités sur la modalité d'un projet flexible. Alors, les Et projet EIF finance plusieurs activités, à savoir la création d'un groupe de femmes éligibles à travailler dans les missions de paix et des Nations Unies. Il y a des activités qui comprennent, par exemple, un groupe de 202 femmes policières créées par la police sénégalaise en 2022. Et on s'est assuré que les Le groupe a été créé et que les femmes ont vraiment participé davantage. Un total de plus de 900 personnels de sécurité ont été formés en matière de problématiques liées au genre. Maintenant, plus de 5 000 personnes ont été sensibilisées en ce qui concerne le rôle des femmes et le rôle au sein des institutions de sécurité et par la police sénégalaise. D'autres activités ont abordé également le manque d'infrastructures pour les femmes, à savoir la construction des installations adaptées aux femmes dans 3 pays, y compris un centre une garderie ou des installations pour les femmes qui participent dans les activités. Maintenant, en ce qui concerne la modalité de financement des GSU, il faut assurer la participation importante des femmes dans les opérations des Nations Unies, mais 4 GSU ont été mises en œuvre lors des années précédentes avec un total de 18 % de représentation féminine. Il y a eu 3 unités assez solides au sein de la police et gendarmerie sénégalaise, mais également il y a eu un bataillon déployé par les forces armées du Ghana. Alors, par exemple, la représentation des femmes dans les GSU déployés par le Ghana était à 91%, c'est-à-dire 165 femmes comparé à une représentation de 16%. Et ces femmes ont été déployées suite à l'issue d'autres projets qui comprenaient la création des installations pour les femmes du bataillon au Ghana. Voilà un exemple du financement EIF qui peut contribuer davantage pour les projets subséquents. Et à travers de ces unités solides des genres, j'ai su, on parle d'implication à tous les niveaux, à savoir particulièrement dans des positions des cadres. Nous avons par exemple 5 femmes dans des positions cadres, 13 femmes pour des positions plus techniques. Maintenant, si vous souhaitez avoir plus des informations en ce qui concerne le financement, je vous encourage à participer aux webinaires supplémentaires qui vont porter sur les financements et ces informations sont également disponibles dans notre rapport 2022. Merci, Yguette, pour ces commentaires. Alors, on avance maintenant en ce qui concerne les critères d'éligibilité pour le gouvernement national. Et bon, c'est quelque chose que je voudrais vraiment souligner. Il y a des critères d'éligibilité très clairement définis dans nos conditions. Alors, je vais rester un moment sur cette diapositive. Alors, premièrement, le TPCC doit démontrer une intention sérieuse de devenir un membre. Alors, par exemple, pour le financement de DPO, il faudrait voir un engagement en fait pour une capacité spécifique de maintien de la paix qui est requise par les DPO dans les systèmes de disponibilité des Nations Unies. Deuxième, en ce qui concerne l'engagement au niveau, il est très important d'avoir un engagement au niveau. De sorte à voir toutes lettres signées par une autorité, à savoir les directeurs de forces armées ou de la police. En ce qui concerne le financement flexible, la candidature doit être appuyée par des données portant sur les barrières aux femmes dans un contexte, dans un pays en particulier. Et ce sera financé directement par un TPCC ou le TPCC peut candidater directement pour surmonter la barrière. Et ce sera sur les barrières et ses recommandations qui va permettre à un TPCC de développer une rationale pour le déploiement de cette activité. Quatrième, une fois que le financement a été fourni, le TPCC doit accorder de publier les informations dans les sites web. Et cinquième, lorsqu'un TPCC recevra un financement, le fonds va engager un consultant qui va travailler avec le TPCC de sorte à évaluer les capacités financières et les risques en matière de ressources humaines. Alors, si on continue à la au critère de priorisation, à nouveau, je vous demander de regarder ces informations de près. Ce sont les critères que le comité technique en partenariat avec le DPO utilisera pour évaluer toutes les lettres d'intérêt reçues, à savoir que le fonds recevra à peu près 10 millions de dollars à allouer pour la première tournée du programme. Alors, le financement, comme je l'ai déjà dit, un certain nombre de financements disponibles à allouer et c'est la demande d'une évaluation individuelle des candidatures pour sélectionner des projets qui seront vecteurs de changement et veillera à s'assurer que les moyens soient alloués et de façon adaptée. Alors, il faudrait trouver des projets qui vont contribuer à plusieurs résultats sur le terrain, préférablement, mais bien évidemment, toutes les applications, toutes les candidatures doivent avoir au moins un résultat tangible. Et il faudrait que les LEI comprennent des données de référence, des objectifs réalistes qui doivent être atteints. Et ces projets doivent avoir comme résultat une amélioration de la participation de femmes dans les rôles de cadre. En ce qui concerne l'engagement, les candidats doivent démontrer comment les femmes, particulièrement les femmes uniformées, jouent un rôle crucial dans la totalité du cycle du projet. Alors, on ne parle que de femmes, mais on parle de l'implication de femmes à chaque étape du projet. Et en ce qui concerne la durabilité et l'extension, alors on regarde des projets qui vont mettre en lumière la contribution augmentée des femmes uniformées avec des leçons qui pourraient être partagées avec d'autres TPCC. Le projet cherche également à des projets qui vont tester de nouvelles barrières, de nouvelles approches pour surmonter des barrières. Et bon, on cherche des projets qui portent plusieurs idées qui n'ont pas été vues jusqu'à présent, innovantes, qui vont venir aborder les domaines problématiques, spécialement celles qui ont été et souligné dans la méthodologie DCAF. Le budget, oui, s'il vous plaît, il faut que ces budgets soient précis et réalistes. Et sur ce mot, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les véhicules, les armes et les munitions ne sont pas incluses dans les financements, bien évidemment. Et finalement, la planification des projets doit prouver un cadre solide de gestion du projet. Alors, pour la troisième tournée du programme, je vais souligner quelques détails clés.
Le montant maximum pour lequel votre position, c'est 1,5 million de dollars et le minimum 100 000 dollars. Et pour les missions des Nations Unies, et ça c'est spécifique aux missions, le total c'est 1,5 million. Donc ça peut être une mission d'1,5 million ou trois missions d'environ 5 millions de dollars. Donc on doit tester des projets novateurs dans ce champ. L'unité de Genderstorm Premium peut être demandée dans le même cadre pour le flexible projet de financement flexible, mais le montant demandé est séparé. On a en plus du FPF. Donc un pays peut demander une demande pour une lettre d'intérêt pour l'évaluation des obstacles ou des barrières et demander également le premium pour le gender GSU. Et donc, nous encourageons tous les pays et forces de police des pays à faire la demande pour l'évaluation des barrières, même s'ils font une demande pour le GSU. À ce niveau, nous avons quelques minutes de retard, mais nous aimerions encourager les personnes à faire les demandes, les participants à faire des demandes en ligne. Et je reviendrai, donnerai la parole à Stéphanie pour les questions, distribuer les questions pour le fonds, pour le DECAF ou pour l'Université de Cornell. Donc, à Stéphanie, la parole. Merci beaucoup. Merci, Deb. Et je vois qu'il y a quelques questions qui sont venues. Alors, je regarde sur mon téléphone un instant, je regarde pour les questions. Et je pense que oui, nous avons des questions. Et Deb, Cornel, Décap, n'hésitez pas à m'aider pour faire en sorte de donner à la bonne personne. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent répondre, n'hésitez pas. Alors, voyons un peu. Commençons par Deb, je pense qu'il y en a une pour vous. Et je pense qu'on donnera deux ensemble. Est-ce que c'est possible pour une femme qui est bénéficiaire, mais que la lettre d'intérêt est signée par les autorités nationales? Donc, une question. Et comment le fonds EIF assure la sécurité des données? Qui aura la responsabilité des données, la propriété des données de l'évaluation? Donc, Deb, commençons avec ces deux questions, s'il vous plaît. Ah, merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, en concernant la première question, est-ce qu'une femme peut être le bénéficiaire ou le destinataire des fonds et la lettre signée par l'autorité nationale? Pour revenir au modèle de financement, le bénéficiaire peut être une organisation des Nations Unies ou une troupe ou un pays. Et la lettre d'intérêt peut être signée au fond par un bureau des Nations Unies en partenariat avec une autorité nationale. Donc, pour la lettre d'intérêt que nous recevons, où il y a une collaboration avec l'ONU Femmes et le pays le bureau de l'ONU Femmes pourrait être le bénéficiaire et fournir les éléments, nous avons quand même besoin de la lettre d'intérêt signée par l'autorité nationale afin de démontrer le soutien complet pour ce projet.
Et dans ce cas-là, là où une organisation non signée serait le destinataire, les coûts devront être inclus dans le bilan, dans le budget, et cela pourrait suffire. L'autorité nationale serait un partenaire et le pays de nation, du Bureau des Nations Unies, UNDP, ONU-Femmes, serait responsable pour tous le reporting financier ainsi que pour tous les projets. Donc ça, c'est un peu d'information du contexte de comment cela marcherait. J'espère avoir répondu à cette question. Si je ne l'ai pas fait, n'hésitez pas à revenir vers moi dans les questions-réponses. Pour passer sur la façon dont l'OIF assure la gestion des sécurités des données, leur sécurité. Cette question concerne l'évaluation des obstacles, des barrières de Moui, et en particulier notamment la relation modèle de partenariat A et B. Alors, j'aimerais être clair. Le fonds ne reçoit pas de données. Le fonds reçoit deux rapports. Dans ces rapports, donc le rapport complet de l'évaluation des barrières sur cette institution en particulier, nous ne partageons pas cela avec personne. Nous le recevons ensuite les informations sensibles peuvent être enlevées dans du rapport et ensuite, avec des cafés cornels, ils se mettent d'accord sur ce qui peut être inclus dans le rapport. Bien évidemment, nous recevons une copie de ce rapport et qui est ensuite mis sur notre site web. Donc, pour confirmer, l'EIF ne reçoit aucune information. Nous n'avons pas la capacité de analyser cela. Ça, c'est fait par l'Université de Cornell en partenariat avec les modèles A et B. Donc, donne la parole à Sineb pour répondre à cela, ce point. Merci, Teb. Oui, alors, Cornell, comme vous pouvez imaginer, c'est une institution de recherche, donc l'université a les standards les plus hauts au niveau de sécurité concernant les différents départements, tous les pays pourront signer un accord de données concernant les données, concernant le modèle de partenariat. Et toutes ces données seront sauvegardées de façon sur sécurité avec l'option de pouvoir utiliser le crédit de l'université et donc avec tout ce qui concerne le système de l'université de protection et l'accès aux informations qui demandent l'approbation du fournisseur de données et avec une équipe de services de sécurité et un gardien de ces données pour assurer sa sécurité. Nous avons également plus de mesures pour sauvegarder afin d'éviter tout accident et partage non voulu de ces données en utilisant des appareils portables ne peuvent pas être utilisés pour accéder à cela. Il y a des serveurs sécurisés, ils ne sont pas sauvegardés sur des appareils personnels ou autres. Et quand nous avons ces données, nous enlevons toutes les informations personnelles. Et lorsque n'importe qui peut demander l'accès aux informations qui ne sont pas partagées au public, les informations ne seront pas partagées afin qu'un individu puisse être identifié. Et dans l'accord de données, il y a également le droit d'accès aux données pour la recherche académique, mais encore une fois, les données, il n'y aura pas de nom personnel, pas d'informations personnelles, ils seront seulement utilisés en utilisant des données agrégées. Il y a le droit d'accès, c'est une condition pour utiliser le lab. L'accord de données peut être adapté pour utiliser pour Rencontrer les besoins des participants dans le processus d'accord de sécurité dans les cadres de partenariat que nous avons avec les autres institutions. Merci beaucoup. Je pense que nous avons encore quelques questions. Quelques questions. Alors, pour Decaprina, est-ce que une femme peut travailler avec le ministère de la Défense et les forces de sécurité afin d'adopter. Et une autre question aussi. Est-ce que vous pourriez donner plus d'informations sur le modèle de partenariat pour avoir des évaluations des barrières qui étaient mentionnées auparavant? Rina, peut-être à vous. Merci beaucoup, Stéphanie. Je donnerai la parole à Inka, qui est aussi en ligne. Elle est également le manager du programme. Inka, est-ce que vous serez en mesure de répondre à cette question concernant ONU Femmes, UN Women? Stéphanie, est-ce que vous pourriez répéter la demande, la question, pardon? Oui. Est-ce que ONU Femmes peut faire la demande pour les financements et travailler avec le ministère de la Défense et les forces de sécurité? Et en tant que partenaire d'adoption, est-ce que vous pourriez donner plus d'informations sur le modèle de partenariat pour évaluer les barrières? Oui, alors concernant ONU Femmes, je vais répondre. La première question, si l'ONU Femmes peut faire la demande pour les financements et travailler avec le ministère de la Défense et des Forces de sécurité. Oui, bien sûr, ils peuvent. De façon quelle les entités nationales ou organisations peuvent être bénéficiaires de ces fonds, recevoir ces fonds. Donc, oui, bien sûr, ONU Femmes, un office, un bureau national peut faire la demande, mais sur la lettre d'intérêt, il faut qu'il y ait clairement le soutien national qui doit venir de la signature de la lettre d'intérêt par un commissaire de police ou un ministre de la Défense ou un responsable de la sécurité nationale qui montre qu'il y a un soutien, qui est en accord avec ce projet. Donc oui, bien sûr, c'est faisable. Et n'oubliez pas que nous aurions trois webinaires additionnels qui seront beaucoup plus interactif que ce brief technique sur les différents modèles de financement du GSU, du flexible, et nous ferons également étape par étape en termes de comment faire la demande au fond et comment écrire la lettre d'intérêt. Vous pouvez voir les dates à l'écran. Peut-être maintenant passer la parole à Decaf pour parler de différents modèles, de partenariat. Oui, merci. Bonjour. Bon après-midi. Je suis de l'ICAF. Je travaille avec l'INA dans l'helpdesk pour soutenir dans les demandes et compléter les lettres d'évaluation. C'est un plaisir d'être ici. Nos préférences de modèle de partenariat. Pour être rapide, parlons de cela dans le webinaire auquel Deb fait référence. Très rapidement, le partenariat, il y a un modèle de partenariat où vous travaillez très proche avec Cornell et son lab avec Zinab et nos collègues qui peuvent soutenir dans ce processus la collecte de données, l'analyse et le rapport selon ce qui a été convenu auparavant et chacun demande l'accès aux informations pour l'université de Cornell. Ensuite, nous avons un modèle C. Vous pouvez choisir le partenaire qui fera la collecte des données de l'analyse et Decaf Desk est là pour vous aider si vous avez des problématiques ou fournir des modèles, du matériel, des formations sur comment compléter cela. Et cela considéré, oui. Sur qui vous choisissez en tant que partenaire de recherche, si vous allez avec le modèle C, car la méthodologie demande une compréhension globale de méthodologie. Et l'analyse des données, les compétences sont plus d'avoir la capacité d'accéder aux institutions de sécurité avec qui on fait l'évaluation. Mais n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à nous joindre à nous mercredi prochain pour discuter pour l'adoption sur le webinaire et sur le support qu'on peut vous donner. Super, fantastique. Merci beaucoup. Pardon, alors quelques questions encore.
Alors, la question est-il éligible de combiner dans une proposition de projet l'évaluation des barrières du mot WIP avec différents éléments du FPE et du GSU? Alors, une autre, est-ce qu'il faudrait envoyer les candidatures séparées? En ce qui concerne la police et les femmes uniformées. Oui, merci, merci pour ces questions. Très bonnes questions et ça me donne l'opportunité de détailler davantage. Alors, en ce qui concerne, est-il éligible de combiner dans une proposition de projet l'évaluation des barrières du MOWIP avec les différents éléments du FPF et du GSU? Alors, une proposition de projet, mais bon, alors, oui, vous pouvez soumettre votre candidature, mais on ne veut pas regarder. On va regarder uniquement le composant d'évaluation MOWIP et les composants GSU. Et pourquoi on ne regarde que ces deux dimensions? Car sauf si une évaluation des barrières est cristallisée et qu'elle fournit des informations détaillées et basées sur les preuves en ce qui concerne les barrières pour cette institution en particulier, dans un contexte particulier d'un pays. Voilà un rapport sur les barrières qui fournit l'analyse, les preuves, les recommandations en ce qui concerne les barrières importantes pour les femmes au sein de cette organisation en particulier. Alors, on ne pourra accepter que les propositions qui soient validées par une évaluation MOWIP ou GSU. Pour une proposition de prime GSU pourrait être acceptée à elle-même, mais on vous encourage de faire une évaluation en ce qui concerne les barrières et chercher un financement pour le faire ou demander un financement pour financer ou avoir une subvention pour faire une évaluation en ce qui concerne les barrières. Et cette évaluation pourra utiliser la méthodologie MOWIP ou il pourrait utiliser une méthodologie d'évaluation validée à niveau national. Et vous allez trouver les critères minimes dans l'appendice numéro 1 de nos termes et conditions. Voilà pour la première question. Maintenant, en ce qui concerne l'autre question, c'était laquelle? Ah, je l'ai perdu. Ah oui, une proposition peut-elle combiner à la fois des femmes en uniforme militaire et policière? Ou une proposition doit-elle être soumise séparément pour les femmes en uniforme militaire ou policière? Alors, vous pouvez les soumettre des candidatures différentes, une pour femmes en uniforme et une autre pour la police, à savoir pour la gendarmerie. On vous encourage ardemment de faire des candidatures séparées pour le militaire et pour la police, car il faut avoir la signature des dirigeants de ces organisations. Et souvent, ce sont des organisations assez diversifiées et qui ont des politiques et des recrutements assez différentes, des politiques différentes en général. Alors, on vous encourage de soumettre une candidature séparée par force de sécurité et on ne pourra pas accepter que des candidatures pour les militaires, la gendarmerie et la police. On n'acceptera pas des applications ou des candidatures pour d'autres organisations plus larges qui rentrent dans le parapluie du secteur de sécurité. Alors, il y a une question différente. Cette évaluation doit être menée avant la soumission du projet ou elle s'intègre dans la proposition. Alors, je vais essayer d'aborder la question d'un prisme différent. Soumettre une proposition demande une évaluation des barrières. Voilà la première étape. Une fois que vous avez terminé votre évaluation des barrières avec un rapport qui a été mené et en dehors de l'initiative ELSI, par exemple, peut-être que vous avez travaillé avec une institution de recherche, peu importe. Mais une fois que vous avez ces rapports et que vous ne le faites parvenir, là, la deuxième étape, c'est appliquer pour un financement flexible basé sur les résultats et recommandations et contenus dans ces rapports d'évaluation de barrières. Alors, je vais répondre d'autres questions car oui, il y a pas mal de questions et je suis ravie de voir autant de questions. Alors, combien de temps ça prend le traitement des candidatures jusqu'à la réception du financement? Alors, une question importante et les réponses sont également importantes. Alors, le financement, le fonds, ferme la fenêtre le 31 juillet de cette année. Ensuite, on va consulter et regarder à toutes les lettres d'intérêt pour nous assurer qu'elles sont en conformité avec nos critères minimes et critères nationaux. Ça prend un peu du temps, bien évidemment, et ensuite il va falloir discuter, évaluer chacune des lettres d'intérêt avec le DPO pour vraiment comprendre les priorités stratégiques des DPO, mais également pour comprendre quels sont les besoins en matière des capacités. Ensuite, il y aura une liste qui sera proposée à notre comité de pilotage pour révision et ce dernier va la valider ou va donner des considérations pour retravailler la proposition. On espère avoir cette liste des LOI suggérées et présentées à notre comité de pilotage au mois de septembre ou octobre. Une fois que nous aurons la décision, on va inviter ces TPCC et toutes les missions y afférentes. Lorsque je dis TPCC, je comprends, je dis lorsque la soumission a été, la candidature a été soumise en partenariat avec une organisation des Nations Unies. Alors, on va contacter ces pays et missions pour qu'ils développent une proposition en détail. Alors, il y a un formulaire qui va incorporer un certain nombre de leçons apprises et on espère avoir cette documentation disponible dans notre site web avant l'invitation. Ensuite, nous allons donner les missions et les TPCC une période d'environ 2 mois pour développer votre proposition en détail. Vous allez utiliser ces formulaires disponibles dans le site web. Ensuite, nous allons recevoir ces propositions au début de l'année prochaine et on va travailler avec les TPCC et les missions pour faire avancer cette candidature où il y aura une consultation avec le DPO. Il y aura également un comité technique qui sera consulté et ensuite on va prendre cette proposition pour que le comité de pilotage la valide. Alors tout ce processus prend bien évidemment du temps car il y a pas mal de consultations et il faut s'assurer que toutes les et candidature aborde au moins un résultat et qu'on puisse voir une logique, une cohérence qui va de l'activité qu'on souhaite faire, comment va-t-on la mesurer, voilà l'impact, les résultats qu'on espère voir et comment ça est complètement en lien avec un ou plus des résultats pour les financements. Une fois que nous aurons toute la documentation nécessaire pour faire passer les NTPFO et qui va nous donner une assistance juridique une fois que la proposition en entière a été signée et que les MOU et les MOA a été signée. Une fois que nous avons ces forfaits entiers et validés, ensuite, il y aura le transfert de fonds dans un délai de 5 jours. Une autre leçon apprise, on va en développer plus en détail à l'avenir dans nos propositions, mais bon, les TPCC et les organisations doivent permettre une fenêtre de temps compréhensible pour que les accords soient signés à niveau national. Parfois, ça prend 6 à 8 semaines. Et on travaille sur des façons de raffiner et accélérer ce processus, mais bon, il est clair maintenant que ça prend du temps dès la réception de la proposition, mais c'est également la réactivité du TPCC ou l'Organisation des Nations Unies est prise en compte. Tout cela impacte les chantiers, bien évidemment. Alors, je regarde la liste des questions qui arrivent et je regarde ma montre également. Je vois qu'on arrive à la fin de notre session. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre toutes les questions qui ont été posées et nous allons les répondre à l'occasion d'autres webinaires sur le financement de l'unité solide de genre. On va apporter ces questions dans ces webinaires ou ateliers en particulier. On va aborder et répondre à ces questions en détail. Alors, je vais m'arrêter ici et je vais redonner la parole à Stéphanie qui va donner les commentaires de clôture. Mais avant de ce faire, pour ceux qui fête le Eid Mubarak, pour ceux qui fêtent la nouvelle année cette semaine, à savoir le Cambodge. Alors, je vous souhaite une belle nouvelle année et merci à tout le monde pour votre attention, pour votre participation. Et je donne la parole à ma collègue Stéphanie. Merci. Merci, Dev. Alors, oui, des questions très intéressantes. Et Dave et les équipes, je pense que tout le monde va pouvoir répondre à ces questions dans les 3 prochains webinaires qui vont fournir plus de détails techniques. Alors, juste pour conclure, à titre personnel, l'histoire qu'on a entendue a été assez et poignante. Moi, j'ai travaillé 32 ans dans les services militaires et j'ai prouvé nombre de choses que vous avez déjà dit lorsque je suis arrivée avec la mission de maintien de la paix avec mon gestionnaire. J'ai travaillé avec le commandant et je m'en souviens des choses qui ont été évoquées par Sarah. Et Sarah, oui, je sais que c'est une histoire qui est représentative de nombre de femmes. Et bon, lorsque les femmes sont là sur le terrain, lorsqu'il y a un cadre dehors, c'est à elles de prendre l'initiative au sein du maintien de la paix. Pour prendre l'initiative, il faut avoir de la confiance. Pour avoir de la confiance, il faut avoir de l'expérience, de la formation. Alors voilà quelques domaines qui ont été évoqués aujourd'hui à un niveau assez technique, qui vont nous aider à nous à faire avancer le maintien de la paix des Nations Unies. Alors, n'oublions pas que les femmes peuvent nous aider à combler les écarts entre la sécurité et les standards de vie et que les Nations Unies vont continuer à fournir une vision exemplaire pour les communautés à travers des missions et opérations de maintien de la paix qui sont déployées. Hommes et femmes, tous les deux sont impliqués et doivent se sentir partie d'une même équipe. Et particulièrement spécial pour les unités militaires et de police. Et si les femmes et les hommes se sentent partie d'une équipe, il y aura des résultats qui vont se traduire dans une bonne morale, confiance et bonne cohésion. Et si on arrive à faire ces objectifs, les Nations Unies vont venir appuyer les les agences de sécurité dans les opérations. Alors, vous n'êtes pas seul, vous avez entendu les témoignages des deux moyens assez et possibles pour obtenir un financement des Nations Unies. Alors, je vais conclure sur ces mots et je donne la parole à ma. Et bon, la première chose à faire est le 31 juillet, la lettre d'intérêt. Les chantiers sont assez clairs sur l'écran. Vous pouvez voir 26 avril, 3 mai et 10 mai. Il y aura d'autres webinaires qui seront organisés pour fournir plus d'informations. La semaine dernière, on a organisé ce webinaire pour avoir plus d'informations détaillées. Dev sera ravi de répondre à vos questions. Alors, je vous encourage à participer à ce webinaire. Merci à tout le monde. Merci, Dev, Agathe, Lina. Merci à tout le monde qui a participé et donné des détails assez techniques en ce qui concerne ces deux thématiques. Alors, n'hésitez pas à prendre des actions dès à présent. Merci énormément. Merci, merci à Stéphanie et merci à toute la participation. Merci. Merci.